Alors, vos vœux, vous les avez préparés, vos résolutions 2012. J'ai consulté l'Internet pour voir une idée de ce qui était présenté en 2011 parce que je manquais de résolution. Mais première résolution a été: j'arrête de fumer. Deuxième, la deuxième résolution, c'est que je reprends la première parce que je me tiens plus sans fumer. Troisième résolution, je maigris. Quatrième résolution, je reprends la troisième résolution parce que je sais que je n'arrive pas à garder ce régime. C'est vrai que nous n'arrivons pas vraiment à changer. Nous sommes des créatures bien formatées, on peut dire, résistantes au changement. Mais si vraiment nous allons changer, je crois que ce ne sont pas des résolutions prises au début de l'année qui vont avoir l'impact voulu sur nous. Mais comme nous avons compris, médité, chanté, prié ce matin, qu'il y a un Dieu qui s'est abaissé vers nous pour nous élever, un Dieu qui donc peut faire l'impossible en lui-même devenant homme pour à son tour nous élever vers lui pour marcher dans ses voies. Mais le hic vient dans cette relation, notre relation, suite à cet appel. Pourquoi échouons-nous, en tant que croyants, d'avancer? Tout simplement parce qu'en plus de ce Dieu aimant, puissant, compatissant, nous avons érigé ou accepté de suivre des substituts, de supplémenter notre idée de Dieu, notre foi, avec nos idées, nos atouts. Nous avons tout simplement cessé de croire que c'est Dieu qui nous rendra heureux, que c'est Dieu qui gardera ses promesses. Et nous avons donc fait plutôt appel à d'autres choses pour aider Dieu, pour garder et tenir sa parole et sa promesse. Jésus a dit: si vous voulez être son disciple, que lui-même il donne quelques précisions, il nous appelle à le suivre en 2012. Dans le texte, en Luc chapitre 9, juste après qu'il annonce à ses 12 disciples qu'il serait mis à mort, il les appelle à le suivre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer, si nous allons réussir à vraiment changer, à vraiment suivre Jésus-Christ, à avoir une vie qui le glorifie et qui soit heureuse, c'est de reconnaître que nous avons mis à côté de Jésus d'autres choses. Notre propre apport, des choses qui sont bonnes et des créations de Dieu que nous avons élevées au rang de prendre la place de Dieu. Car nos cœurs sont faits pour adorer. Nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. Et quand nous ne mettons pas notre confiance complètement en Dieu, nous pouvons mettre cette confiance dans plein de choses, dans ce monde créé qui est magnifique. Une idole est tout simplement de trouver votre bonheur, votre plénitude de vie ou votre identité dans autre chose plus fondamental que Dieu. Que de laisser, oui, la croix de Christ quelque part dans notre vie, mais pas au centre, pas d'entrée vraiment profond. Cet évangile, cette bonne nouvelle, sa personne. Et sans reconnaître donc nos propres limites, ou de permettre à ce Dieu de garder ses promesses de pouvoir pour nous, on accapare le contrôle, on reprend pour pouvoir nous-mêmes à nos besoins. L'idolâtrie est tout simplement le désir excessif d'élever ce qui est bon à devenir ce qui est ultime. Toute chose peut y figurer. La carrière, la famille, votre indépendance, une cause politique, les possessions matérielles, certaines possessions, personnes même qui dépendent de vous, l'attrait physique, la romance, l'approbation humaine, la sécurité financière, votre place dans ce cercle restreint, une institution, ou même la rationalité, l'empirisme, l'expérience individuelle, l'existentialisme, peut mettre plein de choses avant Dieu pour donner son identité, sa sécurité, chercher à combler son bien-être. Martin Luther avait tout simplement reconnu que le premier commandement est le premier parce que c'est ce commandement qui influera sur tout autre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout autre commandement dépend de ce premier. Mais quand on respecte et on élève d'autres aspects créés à un niveau supérieur au Créateur, on tombe dans le panneau de mettre derrière nous le commandement facilement. Vous ne volerez pas si votre richesse est de connaître et de plaire à Dieu. Vous ne commettrez pas d'adultère si la beauté la plus parfaite se trouve en Dieu. Vous ne mentirez pas à moins que vous estimiez autre chose comme étant plus nécessaire, plus important que Dieu et de le respecter. C.S. Lewis, l'écrivain d'Oxford, avait reconnu donc que c'est de supplanter Dieu avec nous-mêmes et nos propres désirs. L'immoralité sexuelle, c'est « j'ai droit, moi, à mon plaisir ». Ce qu'en pensent ou ce qu'en disent les autres, Dieu ne me regarde pas. Ou le mensonge. Je n'ai pas confiance que Dieu lui-même il va pouvoir s'occuper de moi. Je pourrais mieux m'en tirer. J'aurais plus d'habilité à décevoir pour arriver à mes fins. Ou la haine. Je suis mieux que vous et j'ai le droit donc de vous mépriser pour que pour ce que vous avez fait ou pour qui vous êtes. Tout simplement de supplanter le premier commandement qui est Dieu pour mettre autre chose ou même moi-même en premier nous ouvre la voie à nous accorder, nous donner à plein d'autres choses sauf Dieu à des idoles. On peut préférer donc, au nom de moi, je trouve utile ces autres choses, que c'est plus utile de rester chez soi que d'aller à l'église parce que, après tout, mes conforts sont en jeu et on aime bien. Ou on n'aime pas peut-être le repas avec les frères, parce que d'après tout, il y a des choses que j'ai jamais mangées, et puis je peux faire mes repas à moi et de rester chez moi. Ou j'aime pas aller prier avec un frère ou une sœur parce que, oh, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'habitude. Et bon, on peut trouver et mettre avant Dieu plein d'idées, plein de choses qui sont bonnes, mais quand on les élève en première place, on a calé, on s'est donné des moyens, des freins pour avancer, pour être disciple de Jésus-Christ. Donc il nous demande de renoncer à nous-mêmes, à nos propres désirs, pour lui faire confiance, pour l'élever, pour qui il est. Le Dieu créateur, le Dieu aimant, le Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ pour pouvoir, par amour, pour nos besoins, afin qu'on lui fasse confiance et d'apprendre donc à courber nous-mêmes, nos désirs, nos manières, à respecter ce Dieu et de lui faire confiance. De ce sage, Jésus dit en deuxième plan, chaque jour de sa croix. La croix était un instrument de mort, mise à mort. De suivre Jésus-Christ n'est pas moins que de trouver une nouvelle identité en Dieu, au lieu des choses, au lieu de ce que dit ce monde, au lieu des désirs que propose soit notre monde, soit notre cœur, de trouver en Dieu suprême, celui qui est notre identité, de nous justifier, de trouver notre raison d'être, de trouver notre justice, notre qualité de vie, dans un Dieu et pas dans les créations ou dans nos propres machinations. La croix est un instrument donc de mort. Elle vous tue d'une manière ou d'une autre. On ne peut venir à la croix et rester indifférent. Soit notre vie sera brisée, ou nous nous agenouillons devant celui qui s'est donné pour nous pardonner, pour nous inviter à la vie. Soit nous nous endurcissons le cœur dans un refus pour lui dire « Non, je m'occupe de mes propres besoins, j'arrive très bien, merci. » Mais on ne peut rester indifférent quant à la croix de Jésus-Christ. Soit on vient et elle nous transforme en étendissant notre cœur, soit on s'endurcit le cœur pour continuer à mettre Dieu plus loin, en arrière, et nos propres projets, nos propres moyens en avant. Chaque jour, Jésus nous dit de prendre sa croix, cet instrument de mise à mort. Quand Jésus-Christ le dit, pour moi, d'une manière pratique, c'est tout simplement de me trouver devant lui pour essayer de l'écouter, de me débattre avec moi-même, de permettre à ce Dieu aimant et qui connaît l'humanité à cause de son Fils Jésus-Christ surtout, de lutter avec mes propres désirs, mes rechignements, mes rébellions quant à lui, quant à sa parole, pour essayer de me forger le caractère qui lui plaît. Si je n'ai pas ce temps, si je ne prends pas le temps de me mettre chaque jour devant lui pour prendre ma croix, les désirs qui viennent de mon cœur ou de ce monde autour de moi vont vite me dépasser. Et je tombe dans le panneau d'être mon propre disciple à moi et de mettre Dieu en arrière. De prendre ce temps est crucial. C'est un moyen où Dieu lui-même discute, dialogue, vous parle et vous réclame, vous appelle à l'obéissance de nouveau pour prendre cette croix. Chaque jour, Jésus a dit, donc de le suivre, de se charger de sa croix. Alors, suivre le Christ est premièrement un appel à la relation. C'est d'être avec Jésus, de connaître sa beauté, la personne la plus magnifique, la plus aimante, la plus pure, la plus juste qui soit, qui ait jamais existé, qui n'existera jamais. C'est un appel aussi, en tant que disciple, d'être apprenti. Parce que si quelqu'un veut me suivre, était dans le langage de son temps, un appel à être un apprenti, d'apprendre de celui avec qui on passe son temps, sa vie, pour que lui-même, il nous façonne, il nous parle, il nous corrige. Donc c'est un appel à une relation. C'est aussi un appel à une allégeance, ultime. Il n'est pas simplement un consultant qui vous donne un avis. Il est Dieu fait chair, mort pour vos péchés, pour mes péchés, pour nous libérer de nos égoïsmes et des idoles qui nous attisent, qui nous égarent et qui promettent et qui contrôlent, mais sans pouvoir vraiment donner. C'est donc un appel à l'allégeance ultime. Les premiers disciples étaient appelés à quitter le Père pour suivre, à quitter le filet pour le suivre. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais revenus, voir le Père non plus, de retourner à la pêche. Mais tout simplement que leur alliance ultime était faite avec Jésus-Christ. Et de le suivre pour eux était de plus important. Ils l'ont élevé comme Dieu, Seigneur, dans leur vie, pour le suivre. Et tout autre était de loin, un second plan, pas en concurrence. Il n'y avait pas plusieurs seigneurs et plusieurs sauveurs. Il y avait un seul. Et quand Jésus-Christ nous appelle à le suivre, c'est un appel à une transformation parce qu'on change allégeance et on se donne à celui qui a pleinement ce droit en tant que Dieu et en tant que Sauveur. C'est un appel à une obéissance inconditionnelle. Ce n'est pas « Je te suivrai, Seigneur, si ce n'est pas trop inconvenable » ou fatigant, ou gênant, ou sur mon emploi du temps, ou sur mes projets d'argent, ou aux yeux du monde, parce que j'ai aussi ces aspirations. Si vous suivez Jésus-Christ sous vos conditions, je crois que il faut qu'on reconnaisse que Jésus n'a pas accepté d'appeler ces personnes disciples, tout simplement. Si vous dites, je vais obéir à Christ, si cela ne va pas contre la sensibilité moderne ou ma réputation, ou si Dieu me donne le job de ma vie, mais ce sont ces choses-là qui deviennent pour vous des idoles, qui sont pour vous des situations sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre ou pour vous rendre heureux, vous devez les avoir. Laissez Dieu vous en libérer. Permettez que ce soit Dieu lui-même qui vous rende heureux, qui garde ses promesses pour vous bénir. Si on croit l'Évangile à un certain niveau, mais on cherche son identité, sa sécurité, son bonheur dans d'autres choses, dans ceci, l'Évangile n'est pas vraiment pénétré au fond de votre vie. vous essayez encore d'être votre propre Seigneur et Sauveur. Le disciple est tout simplement celui qui prend sa croix, qui est mort, qui a renoncé à son désir égocentrique, d'être son propre maître. Et c'est un appel à suivre Jésus-Christ. Faut-il quand même être si extrême? Jésus s'explique. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. On ne peut pas. On ne peut pas prétendre suivre et Dieu et garder tous ses projets et les suivre. Ça ne marchera pas. On ne peut pas avoir une alliance, un engagement envers les deux. Ça ne marche pas. On suivra l'un ou l'autre. Et comme si on met Dieu en second plan, on n'arrivera pas à avoir vraiment la plénitude de ce qu'il lui il veut vous donner. On sera sous le contrôle de cette idole, de ce que vous érigez, ce en quoi vous mettez votre espoir, votre attente. C'est cette chose qui doit vous combler. Et si vous ratez, cette idole va vous faire quoi? Va vous relever? Va vous fortifier? Va vous pardonner? Ou vous laisser tomber? Donc l'idole, les idoles que nous érigissons dans nos vies ont un certain contrôle, mais sont en soi impuissantes pour vraiment sauver. Sauver sa vie, en se tournant vers d'autres choses, Jésus n'accepte pas comme disciple. Dans les textes, le texte plus loin, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laissez les morts, enterrer le mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permettez-moi d'abord d'aller faire des adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Chapitre 9, donc, les versets 59 à 62. Tout simplement, il n'y a pas de troisième place. Soit Jésus-Christ est Seigneur, soit il ne l'est pas. Soit Dieu dit, je suis Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Soit on a d'autres dieux. Mais il n'y a pas une troisième possibilité. Et Jésus-Christ nous appelle tout simplement à le suivre, à perdre sa vie pour la sauver. En 1933, un groupe de jeunes pasteurs sont venus en pouvoir, plutôt sous l'influence d'Hitler, et l'évêque de l'église allemande les a prévenus, vous ne parlerez pas de la politique. Mais l'église en Allemagne était un peu floue. Elle était là en train de croire simplement le pardon d'un Dieu qui aime tout le monde, mais sans suivre ce qu'il dit. Et dans la clandestinité, dans ce séminaire, une faculté là où il formait quelques pasteurs, des jeunes, Dietrich Bonhoeffer a écrit en 1937 le cours du disciple. Il a repris l'idée d'une grâce bon marché. La grâce de bon marché, c'est l'ennemi de l'Église, c'est le pardon, sans nécessiter la grâce de la repentance. C'est la grâce sans la croix. Par contre, l'Évangile, c'est la grâce coûteuse. C'est coûteux parce qu'elle coûte un homme sa vie et c'est la grâce parce qu'elle seule rend la vie. C'est coûteux parce qu'elle condamne le péché, mais c'est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. par-dessous tout, c'est coûteux parce qu'elle coûte à Dieu la vie de son Fils. Et c'est grâce parce que Dieu n'estime pas son Fils un prix trop cher à payer pour votre vie. Bonhoeffer aurait pu rester à Londres où il y avait des expatriés allemands. Il est rentré dans le pays pour aider l'Église. Il fut arrêté et pendu. Mais l'Évangile et l'Église a continué sous une autre forme, étant plus purifiée, plus nette, plus claire, et plus capable de rebondir après-guerre. Perdre sa vie, on la sauve. Mais je ne veux pas dire à mon fils adolescent que je me suis mal comporté, que j'étais trop autoritaire. Il pourrait quand même croire que je ne suis pas vraiment un père parfait. Ou... Je ne veux pas déjeuner avec ce collègue-là qui avait dit des choses méchantes contre moi devant le patron. Il peut quand même mettre fin à ma carrière. Je suis désolé, je ne veux pas prendre une semaine précieuse de mes vacances pour aller servir pour le groupe de jeunes, pour faire un camp de sport. D'après tout, on sait combien je travaille et les jeunes et les sports, je ne suis pas très doué. Je ne veux pas aller à l'hôpital rendre visite à ce frère qui meurt d'un cancer. Les hôpitaux, ça me rend mal à l'aise et même malade et je ne sais jamais quoi dire. Donc, je lui enverrai une carte jolie de la librairie chrétienne et oh, je l'oublierai quand même. On peut perdre sa vie facilement tout en essayant de la garder. En 1681, on a interdit aux Huguenots en France d'exercer leur profession de coiffeur, imprimeur ou libraire. À la révocation de l'édit de Nantes en 1685, 700 000 Huguenots devaient choisir de se convertir, vivre en cachette ou de fuir. Les deux dernières options risquaient d'être... risquer soit l'emprisonnement, 10 000 y sont passés, d'être condamné aux galères, 1500, ou déporté ou exécuté. 200 000 ont fui le pays. Il y a des personnes dans notre pays qui ont compris que de suivre Jésus-Christ coûte, qu'il y a un coût. Et Jésus a dit, gardez sa vie et on perd. On perd sa liberté en suivant des idoles inutiles. On perd sa bénédiction qui tient en réserve pour ceux qui le craignent même quand ça coûte. Et perdre sa vie, on la gagne. Dans la liberté de servir un Dieu vrai et pas de nos propres idoles, créer une autre façon pour plaire aux autres personnes, pour ériger nos désirs ou leurs désirs à la place ultime, suprême de Dieu, on gagne sur la liberté de notre égoïsme propre. On gagne dans la connaissance de Dieu et dans son amour. On gagne d'être transformé l'image de Jésus-Christ et d'être mieux préparé pour vivre avec lui pour l'éternité. Alors, est-ce qu'on veut suivre Jésus-Christ? Est-ce qu'on veut être son disciple? Je sais que moi, je le veux, mais je sais aussi que j'ai besoin de sa grâce, son pardon, votre aide, encouragement, prière, correction. J'ai besoin des frères et des sœurs qui me parlent, qui me disent ce que je fais ou ce que je ne fais pas, et qui prient pour moi avec honnêteté et humilité et amour, parce que je suis aussi un pécheur en chemin. Mais je veux vivre Jésus-Christ. Je ne veux pas perdre ma vie. Et Dieu ne veut pas que vous perdiez votre vie en 2012. Mais que vous la gagnez ou vous la garderez en le suivant. À cause de nos besoins, nous sommes créés pour le connaître. Nous avons pris en famille un temps d'aller voir le film Hugo Cabret, qui raconte, entre autres, l'histoire de Georges Méliès, cinéaste français, qui avait abandonné ses projets et qui était donc sombré dans le désespoir et même la colère et l'amertume. Et le jeune Hugo, qui aime la mécanique, comprend qu'il y a une raison d'être pour toute chose et qu'il y a une chose qui a été créée doit fonctionner selon cette raison pourquoi elle est créée, afin de bien vivre, afin de bien réussir. Et donc ce jeune garçon va vers le producteur et avec l'aide des amis lui remonte son passé pour qu'il retrouve sa raison d'être, son raison d'être. Ça. Et vous et moi, votre raison d'être, ce n'est pas de suivre autre chose. Cela nous casse, de même que de boire Monsieur Propre, qui est destiné au nettoyage de la cuisine, va vous désintégrer la vie. De même, faire autre chose avec votre vie de ce pourquoi vous êtes créé, va vous désintégrer, va vous détruire. Et Dieu veut tout simplement que vous trouviez la place de pourquoi vous êtes créé, avec lui, en lui donnant sa place dans votre vie. Il est Christ le Dieu, la beauté la plus parfaite. Il est mis à mort pour vous, pour moi, afin que nous vivions éternellement. Il reviendra dans sa gloire avec ses anges. Voilà la confession de quelqu'un. Je joue prudemment de ma vie. Quand possible, je me protège des chocs, je minimise les risques de nouveaux ministères, je m'accroche à ma dignité. Je fais cela très bien. Après quelques années maintenant, mon petit passage par la vie sûre, aseptisée, surtout agréable, bien alimentée, sans stress et dignifiée, j'entrerai à l'éternité. Oui, je dirai avec mon souffle mourant, tu as été très prudent. Tu n'as jamais été brûlé vif, pris comme poire ou obligé de porter des charges trop lourdes. Tu as réussi à éviter qu'on se rie de toi, te rejette. Et généralement, on pense d'une manière moins que ce que tu es. Tes sentiments ont été épargnés, votre esprit est nickel. Et vous avez gardé la plupart de tes cheveux. Voilà, tu es arrivé à la fin de ta vie. Hurra! Tu t'es sauvé toi-même. Mais le ciel n'est pas pour ceux qui gagnent leur vie, mais pour ceux qui la perdent. Le ciel est là où Dieu console les abattus, restaure les brisés, récompense les pauvres, honore les humiliés et essuie des larmes des yeux de ceux qui pleurent. Carrière, argent, possession, votre image de vous-même, la pensée de votre vie privée, loisirs, amitié, mariage, relations, famille, santé, participation à l'Église, le témoignage. Soyons prêts, soyez prêts à vous rendre conforme à tout ce que Dieu veut concernant ce domaine. Soyez prêts à remercier Dieu pour tout ce qui vous arrive en 2011, 2012, dans tout domaine, qu'on le comprenne ou pas. Soyez prêts à permettre à Dieu d'être votre Dieu dans sa vraie place. Père éternel, nous voulons tout simplement te remercier pour Jésus-Christ et nous émerveiller devant Noël, ce cadeau merveilleux que tu nous donnes, un Fils qui nous est né, un Sauveur, et lui-même qui prenne cette place de nouveau dans nos cœurs. Pardonne-nous d'avoir si facilement ou souvent repris la place qui t'est due, et nous voulons encore, ce début d'année 2012, nous tourner vers toi pour te demander que toi-même, tu aies cette place, que Jésus-Christ, que nous te suivions, que nos vies soient perdues pour t'aimer, t'obéir, te servir, afin que toi-même, tu nous sauves de notre égoïsme, de nos projets, de nos idoles, de ta désapprobation, et que nous soyons donc ainsi prêts pour l'éternité un jour pour entrer et jouir de ta gloire. Seigneur, tu vois les fardeaux des uns et des autres, tu vois les charges, tu vois là où peut-être que nous sommes tombés ou avons été blessés. J'aimerais prier tout simplement, Père, que toi-même, dans tes grandes grâces, que tu montres la seigneurie de ta compassion, de ton amour, de ton pardon, de ta paix, de ta joie à tout un chacun. Et qu'ainsi, nous puissions nous remettre à te suivre et te trouver comme celui qui seul qui puisse vraiment combler et nous rendre la joie. Ceci, nous te le demandons à cause de qui tu es et de ton appel dans nos vies. Amen.